Daf Lamed Amoud Bet, en bas du Hamoud à la Mishnah. Nochri Sheilva Tisal al Chametzo, Achar Pesach Mutar Bana. Un goy qui a prêté de l'argent à un juif contre son Chametz, c'est-à-dire que le Chametz du juif sert de garantie de remboursement au goy. Après Pesach, on aura le droit de profiter de ce Chametz. C'est-à-dire que si l'échéance arrive et que le juif ne rembourse pas sa dette, et que donc son chametz revient maintenant au goy, même si l'échéance est après Pessah, on aura le droit de profiter de ce chametz parce qu'on considère que depuis le moment du prêt, ce chametz appartenait au goy. On verra dans la Gemara de quel cas on parle exactement, dans quel cas est-ce qu'on peut considérer effectivement que le chametz qui sert de garantie de remboursement appartient au goy depuis le moment du prêt lorsque finalement le juif n'a pas payé sa dette. Dans le cas inverse où c'est un juif qui a prêté de l'argent à un goy et que le chametz du goy sert de garantie de remboursement de la dette, après Pessah, ce chametz sera surbana. Là aussi on parle du cas où le goy n'a pas remboursé sa dette. Même si l'échéance est arrivée après Pessah, malgré tout on considère que ce chametz appartenait déjà aux juifs pendant Pessah, depuis le moment du prêt, et donc ce chametz est assur bana, comme le dîne du chametz du juif qui a passé Pessah. La Gemara dit Itmar, on a enseigné Baal Chov c'est un créancier, donc il a prêté de l'argent à quelqu'un, et cette personne lui a hypothéqué des biens qui serviront donc de garantie de remboursement. Et finalement, l'échéance est arrivée et celui qui a emprunté n'a pas remboursé sa dette. Abaye Amar le mafa ou gove. Abaye dit que lorsque le créancier va saisir ses biens, ils lui appartiennent les mafra rétroactivement depuis le moment de l'emprunt. Verava Amar, Mikan ou le Abba ou gove. Et Rava lui dit, non, c'est à partir de maintenant, à partir de l'échéance, à partir du moment où l'emprunteur n'a pas remboursé sa dette, c'est à partir de ce moment-là que les biens reviennent au créancier. Et la Gemara va expliquer quelle est la différence entre Abaye et Rava, quelle est la nafkamina entre les deux. La Gemara dit, kol echad agdish lové vezavin lové, kule alma l'opligé d'até malvé vetarif, vaté malvé ou parik. Dans le cas où c'est l'emprunteur qui a rendu ses biens Ekdesh, donc ses biens qu'il a hypothéqués au malvé, au prêteur, il les a rendus Ekdesh entre le moment du prêt et le moment de l'échéance, ou alors il les a vendus, le lové, l'emprunteur a vendu ses biens à quelqu'un pendant la période qui va du moment du prêt au moment de l'échéance. Là, tout le monde est d'accord, et Abaye et Rava sont d'accord, que le malvé, le créancier, peut venir et saisir les biens de l'acheteur, les lui prendre, parce que le lové, l'emprunteur, n'avait pas le droit, n'a pas la possibilité de vendre et de rendre Ekdesh ses biens, et de la sorte, défaire l'hypothèque du créancier, du Baal Chov. Il ne peut pas le faire parce que ses biens ne sont pas dans sa propriété, même s'ils lui appartiennent pour l'instant, mais ils ne sont pas dans sa propriété, ils ne sont pas birchuto, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Et donc, il ne peut pas les vendre ou les rendre Ekdesh. Donc, le malvé, le créancier, peut venir et saisir ses biens, les prendre de l'acheteur. Vaté malvé ou parik, ou le créancier peut venir et racheter ses biens du Ekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire les racheter? Il les rachète pour une somme symbolique, pour une petite somme, juste pour ne pas que les gens pensent que on peut faire sortir quelque chose du Ekdesh sans le racheter. Donc c'est pour ça qu'il faut donner une petite somme symbolique pour montrer qu'on le rachète. Donc le créancier va donner une petite somme symbolique qui va lui permettre de racheter c'est bien, et ensuite il peut les saisir puisque ils lui sont hypothéqués. Ditnan, comme on a enseigné dans la Mishnah, Mosif od dina uponed et anechasim aelu. Donc c'est une Mishnah dans Masechet Arachin qui parle du cas de quelqu'un qui a prêté 100 manets, et l'emprunteur a rendu Egdesh, donc des biens qui étaient hypothéqués à cette dette, pour une valeur de 90 manets. Et la Mishnah dit que le créancier, il paye un dinar, donc un manet, pour racheter ses biens du Hekdesh, et il récupère donc tous ses biens d'une valeur de 90 manets pour rembourser donc une partie de sa dette. Donc on voit que effectivement il peut il peut les récupérer du Hekdesh, il doit simplement donner une petite somme symbolique pour ne pas que les gens pensent que on peut prendre quelque chose du Hekdesh sans avoir à le racheter. Donc là, Abaye et Rava sont tous les deux d'accord dans ce cas-là que le lové ne peut pas vendre ou rendre Hekdesh ses biens qui sont hypothéqués au Malvé, puisque justement ils sont hypothéqués au Malvé, donc ils sont assujettis à cette dette. Qui pliguait des avis de Malvé avec Kadish Malvé. La marloquette entre Abaye et Rava, c'est dans le cas où c'est le Malvé, le créancier, qui a vendu ou qui a rendu Hekdesh pendant cette période qui va entre le moment du prêt et le moment de l'échéance. Abaye Amar le Mafa Ugove. Abaye pense que lorsque le créancier saisit ses biens, lorsque l'échéance arrive et que l'emprunteur n'a pas remboursé, c'est rétroactif, et donc ça lui appartient depuis le moment du prêt. Donc lorsque l'échéance arrive et que l'emprunteur ne lui a pas remboursé, donc il s'avère rétroactivement que depuis le début c'était dans sa propriété, dans la propriété du créancier. Mais Shapir Agdish, mais Shapir Zavin. Donc quand il l'a rendu Hekdesh ou qu'il l'a vendu, c'était valable, la vente était valable, le Hekdesh était valable, puisque ça lui appartenait déjà. Verava Amar, alors que Rava dit, Mikan ou Abba ou Gové, c'est à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de l'échéance que il prend ses biens, qu'il prend possession de ses biens. Kevan de ilo avoulé zouzé, avam et salikle ou bezouzé. Jtekar, jtakakane. Et Rava explique que puisque si l'emprunteur avait de l'argent, il aurait pu lui donner de l'argent, et dans ce cas-là, le créancier n'aurait pas pu prendre ces biens-là, n'aurait pas pu prendre ces terrains. Donc ça veut dire que c'est maintenant, c'est au moment de l'échéance, au moment où il ne lui rembourse pas, c'est à ce moment-là que en réalité, le créancier prend possession de ses biens. Donc, ça veut dire que ce qu'il a fait entre-temps de les vendre ou de les rendre Hekdesh, c'était pas valable. Et donc, il peut se rétracter puisque il ne lui appartenait pas à ce moment-là. Rezman s'étonne et demande Oumi Amar Rava Ahi. Est-ce que Rava dit une chose pareille que c'est Mikan ou Le'aba ou Gové, que c'est seulement à partir du moment de l'échéance que ça appartient au créancier? Ve'amar Rabbi Bar Chama, pourtant Rabbi Bar Chama a dit, Reuven shemachar sadeh le Shimon ba'acharayut, ou zekafan alav bemilva. Donc Reuven a vendu un champ à Shimon avec garantie. Qu'est-ce que ça veut dire avec garantie? C'est-à-dire que Reuven s'est engagé que si jamais il a un créancier qui vient saisir ce champ, parce que ce champ est hypothéqué à une dette éventuellement que Reuven a envers quelqu'un d'autre. Et donc cette personne, ce créancier, va venir saisir ce champ. Réhouven s'engage à rembourser le champ à Shimon. À Shimon, donc à l'acheteur de ce champ. Et par ailleurs, Shimon n'avait pas l'argent pour payer le champ, et ils l'ont transformé en prêt. C'est-à-dire qu'ils ont transformé cet argent comme si c'était un prêt que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Donc ils ont écrit un shtar, comme quoi Reuven a prêté de l'argent à Shimon, c'est le montant de la valeur du champ. Ou maître Reuven, et Reuven est décédé. Ve'ata ba'al chov de Reuven, ve'tarifle mi Shimon. Et il y a, après la mort de Reuven, il y a un créancier de Reuven qui est venu pour saisir le champ de Shimon, parce que ce champ lui était hypothéqué pour sa dette. Ve'ata Shimon ou faïsé bezouzé, et Shimon lui a donné de l'argent pour ne pas qu'il prenne le champ. Donc ça veut dire que Shimon pensait que cet argent, qui est l'argent qu'il doit à Réhouven parce qu'il ne lui a pas encore payé le champ, donc il la doit, il doit cet argent à aux héritiers de Réhouven. Il a donné cet argent aux créanciers de Réhouven pour ne pas qu'ils prennent le champ. Donc en pensant que de cette manière-là, c'est comme s'il avait payé maintenant, s'il avait remboursé sa dette, il a payé l'argent qu'il devait pour l'achat de ce champ. Elle m'a dit, Dina ou Deatou ben Réhouven va brûler les Shimon. Le dîne est que les fils de Réhouven, les héritiers, peuvent venir dire à Shimon, Anan metaltele shava kavun gabar. Nous, ce que notre père nous a laissé auprès de toi, ce sont des métatélim. Ça veut dire que leur père ne leur a pas laissé de terrain. Il ne leur a pas fait hériter de terrain. Ce qu'il leur a fait hériter, c'est la dette. Donc, ça veut dire l'argent que Réhouven, pardon, que Shimon lui devait. Donc, il a fait hériter ça à ses enfants. Et ça, c'est des métatélim. Cette dette, c'est de l'argent. C'est comme des biens immobiliers. C'est pas comme des biens immobilier, ou métatédéatmé, les balchov l'omishtar bédé. Or, les biens mobiliers que les yétomim, que les orphelins ont hérités de leur père, ne sont pas assujettis aux dettes du père. Ça veut dire que lorsque le père a laissé des terrains, donc il a fait hériter de terrains à ses enfants, effectivement, ces terrains peuvent servir de remboursement pour les dettes qu'il a. Donc, si il a des créanciers, ces créanciers peuvent saisir ces terrains. Mais s'il ne leur a pas laissé de terrain, mais seulement des biens mobiliers ou de l'argent, là, ces biens ne sont pas assujettis aux dettes du père, et donc les créanciers ne peuvent pas saisir ces biens mobiliers ou cet argent pour se faire rembourser leurs créances. Et donc les fils de Réhouven disent à Shimon, nous, notre père ne nous a pas laissé de terrain, il nous a laissé que cette dette que tu lui dois, qui est de l'argent, qui est des métaltélines, et donc c'était pas engagé par rapport à la dette que notre père avait envers cette personne, et donc tu ne peux pas considérer ça comme un paiement de ta dette à toi. Lorsque tu as donné ça au Balrog, au créancier de notre père, tu ne peux pas considérer ça comme un paiement de l'argent que tu lui devais, puisque nous, on n'avait aucune obligation de payer cette dette de notre père, puisqu'il ne nous a pas laissé de terrain. Et par ailleurs, on n'a pas non plus d'obligation de te rembourser ton terrain, le terrain que tu as perdu, puisque l'engagement de notre père aussi. On n'a pas de responsabilité vis-à-vis de cet engagement qu'il avait envers toi lorsqu'il t'a donné cette garantie, puisque cette garantie n'est valable que par rapport à des terrains qu'il nous aurait laissés. Or là, il nous a pas laissé de terrain, donc on n'a pas non plus d'engagement vis-à-vis de toi de te rembourser ce terrain que le créancier a saisi. Ve'amar Rava, et Rava a dit à propos de Sidina, Ipiker Shimon, Magbele Si Shimon est intelligent, il peut faire la chose suivante. Il peut leur payer, donc l'argent qu'il leur doit, puisqu'il leur doit toujours l'argent, comme on a dit, et l'argent de l'achat du terrain, qui a été transformé en dette, comme un prêt. Donc, il leur paye ça avec un terrain et non pas avec de l'argent. C'est-à-dire qu'il leur dit qu'il n'a pas d'argent et il leur donne donc un terrain pour payer cette dette. Et après, il peut reprendre ce terrain. Puisque maintenant ils ont un terrain qu'ils ont reçu grâce à leur père, puisque c'est de l'argent qu'ils devaient à leur père, il leur a donné un terrain. Donc maintenant ils ont un terrain. Ce terrain est assujetti à la garantie que Réhouven avait donnée à Shimon par rapport à ce terrain qu'il a acheté, que dans le cas où un créancier le saisirait, qu'il lui rembourserait. Donc il pourra après se retourner contre les héritiers et prendre ce terrain qu'il leur a donné lui-même, le récupérer, puisque maintenant ce terrain peut servir de garantie par rapport à cet achat qu'il avait fait. D'Amar Rav Nachman, parce que Rav Nachman a dit, Yetomim shegavu karka bechovat aviyem, baal chov choser vegove otamehem. Des héritiers qui ont saisi un terrain pour se faire rembourser donc une créance que leur père avait vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Si leur père a par ailleurs un créancier lui-même, ce créancier peut récupérer ce terrain. C'est-à-dire, bien que ce terrain, ils l'ont saisi après la mort de leur père, malgré tout, le créancier de leur père peut se saisir de ce terrain. C'est comme si le père avait laissé un terrain à ses héritiers qui peut servir de remboursement pour sa dette. Et la Gemara conclut maintenant sa question. Elle dit, donc, de ce digne de Rav Nachman, Rava a appris aussi que, donc, s'il leur donne un terrain, il pourra après récupérer lui-même ce terrain. Et Amar Bishlama le Mafa ou Gové, et la Gemara dit maintenant, si, on comprend bien, si tu dis que, que lorsque le créancier saisit le terrain qui est hypothéqué à sa dette, que il l'acquiert rétroactivement depuis le moment du prêt, alors c'est la raison pour laquelle il peut après récupérer ce terrain, parce que c'est comme si ce terrain avait été déjà saisi de la vie de leur père, et donc c'est le père qui leur a fait hériter ce terrain, donc qui est hypothéqué par rapport à cette garantie. Et là, il y a Mard Mikan ou le Haba ou Gové. Mais par contre, si tu dis que lorsque le créancier saisit les biens, c'est à partir du moment de l'échéance que, c'est-à-dire seulement à partir du moment où il va saisir effectivement les biens, c'est à partir de ce moment-là que ça lui appartient et ça lui appartient pas rétroactivement. Amai Choser Gové Otamehem. Alors pourquoi est-ce que il aurait le droit de saisir ces biens des héritiers? Avec Eman des Avignatmen, mais ça devrait être comme si les héritiers ont eux-mêmes acheté ces biens. Or, si les héritiers ont acheté des terrains, est-ce que ces terrains sont assujettis aux créanciers? C'est sûr que non. C'est seulement les terrains de leur père. Donc, c'est seulement si c'est rétroactif et donc ça appartenait déjà au père que là, on peut dire effectivement que ces terrains sont engagés par rapport à la dette ou par rapport à la garantie. Mais si c'est Mikan ou Léaba, et donc c'est à partir de maintenant seulement que ça appartient aux héritiers, donc comme c'est pas rétroactif, donc c'est comme si les héritiers avaient acheté des terrains et ils ne sont pas engagés par rapport aux dettes de leur père. La Gemara répond, Shaneatam, Damar mais des Rabbi Nathan. Ben, dit non, c'est différent là-bas. C'est-à-dire que même si effectivement, comme Rava a dit, on dit que Mikan ou le Hava ou Gové, que le Balchov, lorsqu'il saisit des terrains, il ne les acquiert qu'à partir du moment où il les a saisis, c'est-à-dire à partir du moment de l'échéance et pas à partir du moment du prêt. Mais malgré tout, il peut dire que de la même manière que lui, donc Shimon, est engagé par rapport à leur père, c'est-à-dire qu'il a une dette envers leur père, il a aussi une dette vis-à-vis, il est aussi engagé vis-à-vis du créancier de leur père, qui n'est autre que lui-même. Parce qu'en fait, il est lui-même et le créancier, et il est aussi celui qui doit de l'argent au père, puisque d'une part il lui donne de l'argent parce qu'il ne lui a pas encore payé le terrain qu'il a acheté, mais par ailleurs, le père lui avait donné une garantie et ce terrain a été saisi par le créancier de leur père. Donc, le père lui doit aussi de l'argent à lui. Donc il dit de la même manière que je dois cet argent à votre père me doit aussi cet argent, donc je dois cet argent à moi-même à travers votre père, à cause du dîme de Rabbi Nathan. C'est quoi le dîme de Rabbi Nathan? C'est ce qu'on appelle Shiabouda de Rabbi Nathan, des Tanéa, parce qu'on sait dans la Breita. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Minaïn enoshe bachavero mané, vechavero bachavero, shemotsim mise venotim lazé. D'où est-ce qu'on sait que lorsque quelqu'un a une créance d'un mané chez quelqu'un d'autre, et que cette autre personne a une créance d'un mané chez une troisième personne, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut sortir le mané de la troisième personne et la donner à la première? Donc on a Shimon qui doit un mané à Réhouven, et Lévi qui doit un mané à Shimon. On peut prendre le mané de Lévi et le donner à Réhouven. C'est-à-dire, c'est comme si Lévi devait cet argent directement à Réhouven. Donc ça, c'est le principe de chez Bouddha des Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit d'où est-ce qu'on apprend ça? Talmud Lomar, Venatan Asher Hashamlo. Donc le pasouk dit Venatan Asher Hashamlo. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a volé de l'argent et qui a juré qu'il ne l'a pas volé. Il doit rembourser en rajoutant un chomesh, et c'est écrit Venatan Asher Hashamlo. C'est pas écrit Venatan Asher Gazallo, qu'il le donne à celui à qui il l'a volé. C'est écrit Asher Hashamlo. De là, on apprend la Gemara, apprend dans Bava Kamma. Hasham, c'est dire le keren, le capital à qui, celui à qui le capital appartient, c'est dire le créancier de son créancier. Donc, de là, on apprend le principe de chez Bouddha des Rabbi Nathan. Donc, là, l'acheteur, donc Shimon, dit aux héritiers du vendeur de Réhouven, il leur dit, je me dois cet argent à moi, puisque je dois cet argent à votre père et que votre père me doit cet argent, donc c'est comme si je me devais cet argent à moi-même, donc cet argent, ce terrain m'est assujetti à moi à travers votre père. L'Agmara dit Tnan, on a enseigné dans notre Mishnah, Nochri Sheidvat Israël al Chametzo, Achara Pesach Mutar Bana. Donc on a dit dans la Mishnah que si un goy a prêté de l'argent à un juif et que le Chametz du juif sert de garantie de remboursement pour le goy, après Pesach, ce Chametz, on a le droit d'en profiter. Donc si l'échéance est arrivée qu'il n'a pas, que le juif n'a pas remboursé sa dette. Et Amar Bishlam Alemafa Ugove, et l'Agmara dit, on comprend bien. Si on dit qu'effectivement c'est rétroactif, que lorsque l'échéance arrive, ce Hametz qui est hypothéqué appartient au créancier, donc le goy, l'emafréa, rétroactivement depuis le moment du prêt, c'est la raison pour laquelle on a le droit d'en profiter parce qu'il appartenait au goy pendant Pessah. Et là, il y a un Mart Mikan ou le Abba Ugové, mais si tu dis que comme Rava, qu'il ne l'acquiert que à partir du moment où il n'a pas remboursé sa dette. Amay Moutar Bana, alors pourquoi est-ce que ce Khametz, on aurait le droit d'en profiter après Pessah? Birshutra Israël Avakeh, pendant Pessah, il était dans la propriété du juif, puisque à ce moment-là, l'échéance n'était pas encore arrivée. Ma répond, Achabema Askinan, ici de quoi il s'agit? Keshehirino Etzlo. On parle du cas où le juif a déposé ce Hametz chez le goy en tant que gage. C'est pas seulement qu'il a hypothéqué ce Hametz au goy pour la dette qu'il a envers lui, mais il le lui a donné comme gage et le goy l'a pris chez lui. Et la Gemara comprend pour l'instant, comme on va voir après, que Balchov connaît Mashkon, que un créancier il acquiert un gage qui lui a été donné, donc c'est comme s'il lui appartenait. Donc c'est pour ça que là, ça lui appartient, ça appartient au goy pendant Pessah. La Gemara dit, Lema Ketanaï. Est-ce qu'on va dire que la machloket entre Abaye et Rava est une machloket entre les Tanaï? Il y a une braïta qui dit, Israël Shilva Lenochri Al-Chametzo, un juif qui a prêté de l'argent à un goy et le goy a hypothéqué son Chametz, donc pour cette dette, l'achat Pessah est nover. Après Pessah, si on profite de ce Hametz, on ne transgresse pas de Issour, ça veut dire que on a le droit d'en profiter après Pessah, on considère que ça appartenait au Goy pendant Pessah. Mishum Rabbi Meir Amrou, et on a dit au nom de Rabbi Meir, au vert, que non, que si on en profite après Pessah, on transgresse un Issour, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter après Pessah, parce qu'on considère que ça appartenait aux Juifs pendant Pessah. Maïlav Beakamiflegé, n'est-ce pas que leur machloquette est la suivante? C'est-à-dire que l'Agmara comprend que là, cette Braïta parle dans le cas où il ne lui a pas donné comme gage, ça veut dire que le goy n'a pas donné son Hametz aux Juifs, le Juif n'a pas pris le Hametz chez lui en tant que gage, mais c'était simplement hypothéqué. Et leur machloquette est la suivante. Des mars, ça va aller ma fa au gové. Rabbi Meir pense que lorsque le juif va saisir ce Hametz lorsque l'échéance va arriver et que le goy n'a pas remboursé, il lui appartient les mafra rétroactivement depuis le moment du prêt. Donc pendant Pessah, il lui appartenait déjà. Donc c'est pour ça que ce Hametz est assur après Pessah. Ou bah, ça va, hein, mais quand même là-bas, ou gové. Alors que Tanakama pense que lorsque le juif va saisir sur Hametz, il ne lui appartiendra que à partir de ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il lui appartiendra seulement après Pessah. Et donc, pendant Pessah, il appartenait encore au goy. C'est pour ça que il est permis. Elma dit Vetisbera, est-ce que tu peux penser que c'est alors Machloket? Ema Sefa. Alors dit la suite de la Braïta. Aval Nochri Sheilva l'Israël Hametzo, l'Achara Pessah Tivra Kol Over. C'est écrit que dans la suite de la Braïta, que dans le cas contraire où c'est le goy qui a prêté de l'argent au juif et que le juif a hypothéqué son Hametz, après Pessah, là tout le monde est d'accord que il transgresse, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de profiter de ce Hametz. Et on me demande, va Ibrahim, pourtant, ça devrait être l'inverse du premier cas. Les mains de Amaratameno vers Acha Over. D'après Tanakama, qui là-bas dit que il ne transgresse pas de Issour, donc ça veut dire que Tanakama pense que c'est Mikan ou là-bas ou Gové seulement à partir du moment où à partir du moment de l'échéance. Donc ici, dans ce cas-là, puisque c'est le goy qui a prêté aux Juifs, donc, et le Hametz, c'est le Hametz du Juif. Donc là, Hacha Over, ici, et ce Hametz devrait être interdit après Pessah, puisqu'il appartient toujours aux Juifs pendant Pessah. Les mains d'Amaratam Over, alors que d'après Rabbi Meir, qui pense, dans le premier cas, dans le cas où c'est le Juif qui a prêté au Goy et que le Hametz appartenait au Goy, il pense que il transgresse, ça veut dire que les Mafréa ou Gové, ça veut dire que c'est rétroactif. Donc ici aussi, ça devrait être rétroactif. Achaen over. Donc ici, puisque c'est rétroactif et que ce Hametz donc appartient déjà au goy depuis le moment du prêt, donc il ne devrait pas transgresser. C'est-à-dire que ce Hametz devrait être permis après Pessah. Et là, Hametz kigon sheirino etzlo. Donc l'Agmara a dit, puisque c'est pas possible de dire que la machloket entre Tanakama et Rabbi Meir, c'est la machloket entre Abaye et Rava, parce que sinon on comprend pas la Sefa. Donc il faut dire que ici dans cette braïta, on parle du cas où Hirino Etzlo, c'est-à-dire qu'il lui a donné comme gage, il l'a déposé chez lui, chez le malvé, chez le prêteur. Les Kamiflegeb et des Rabbi Yitzhak, et la machloket entre Tanakama et Rabbi Meir, c'est à propos du din de Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak, parce que Rabbi Yitzhak a dit, Minay ne baal chov shekoneh mashkon, d'où est-ce qu'on sait que un créancier acquiert le gage que le lové, que l'emprunteur lui donne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique que le gage qui lui a été donné, il n'est pas considéré simplement comme un chômer chinam, comme un chômer sachar par rapport à ce gage. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement la responsabilité de quelqu'un à qui on a confié un objet, mais c'est comme si cet objet lui appartenait complètement, et donc, même dans un cas de honnêteté, il sera capable de payer. D'où est-ce qu'on sait que le Baal Chov, effectivement, acquiert le Mashkon, c'est comme si le Mashkon, comme si le gage lui appartenait. Chez Neymar, Ulchat Yé Tzedaka. Parce que c'est écrit dans le Pasuk, Ulchat Yé Tzedaka. Là-bas, le Pasuk dit que lorsque un pauvre a emprunté de l'argent à un riche, et que ce pauvre a donné a donné en gage un vêtement de nuit à ce riche, c'est écrit que le riche doit lui rendre son vêtement pour la nuit pour qu'il puisse l'utiliser, pour qu'il puisse dormir avec. Et c'est écrit Ulchat Yé Tzedaka, et ce sera considéré pour toi comme de la tzedaka. Donc c'est-à-dire que le prêteur, on considère le fait que il rende le vêtement du pauvre pendant la nuit, c'est considéré pour lui comme de la tzedaka. Et Rabbi Yitzhak dit, Meno kone mashkon tzedaka minayin. S'il n'avait pas acquis le gage, alors pourquoi est-ce que ça serait considéré comme la tzedaka? La tzedaka, c'est quand quelque chose nous appartient et qu'on le cède à quelqu'un d'autre. Donc là, ça veut dire forcément que ce gage, on considère qu'il appartient au Baal Chov, au créancier, et qu'il appartient pas, il appartient plus au lové, à l'emprunteur. Donc du fait que le pasouk dit Ulchati et Tzedaka, Rabbi Yitzhak apprend que Mikan le Baal Chov shekoneh mashkon, de là on apprend que le créancier acquiert le gage qui lui a été donné. Donc ça c'est ce qui est écrit dans le pasouk. Tanakamas, ça c'est, pardon, le din de Rabbi Yitzhak, que Rabbi Yitzhak apprend du pasouk. Et maintenant, la Gemara va expliquer la machloket entre Tanakama et Rabbi Meir. Tanakama savar animile Israël Misraël hu, dekarin yabé Ulchati et Tzedaka. Tanakama pense que ce din n'est que entre deux juifs. Lorsque un juif a prêté à un autre juif, Et là, effectivement, on peut appliquer le passouk de Ulchati et Tzedaka. C'est un juif qui a, lorsqu'il a prêté à un autre juif, et que ce juif lui a donné un gage, là, il a effectivement une mitzvah de Tzedaka de lui rendre ce gage pour la nuit. Aval Israël Minochri, Lokane. Mais lorsque c'est un juif qui a prêté à un goy, et donc le goy lui a donné un gage, là il n'y a pas de cette mitzvah de Ulchatiziti et Tzedaka, là le créancier n'a pas de mitzvah de lui rendre le gage pendant la nuit. Donc ce passouk ne s'applique pas. Donc là, on n'a pas de raison de dire que le juif a acquis le gage du goy. Donc effectivement, le gage du goy continue à appartenir au goy, et c'est pour ça que Tanaka pense que on ne transgresse pas le issour on ne transgresse pas de issour si on en profite après Pessah. On a le droit d'en profiter après Pessah, puisque pendant Pessah, il appartenait toujours au goy. Et il faut préciser qu'on parle du cas où le juif n'a aucune responsabilité s'il arrive quelque chose à ce gage, parce que sinon on avait vu que le fait qu'il ait une responsabilité, ça lui donne aussi un chiouf d'éliminer ce Hametz pendant Pessah. Donc il a l'issur de Balira ou Balimatsé. Mais Rabbi Meir, ça va, hein, Kalvachomer. Alors que Rabbi Meir lui dit non, il y a un Kalvachomer. Israël, mais Israël Kané, et si déjà un juif acquiert le gage d'un autre juif, comme on l'a appris du passouk d'Ulchati et Tzedaka, Israël Minochri le Kol Sheken, alors à plus forte raison que un juif acquiert le gage que le goy lui a donné. Donc même si effectivement le passouk ne s'applique pas à ce cas-là, mais on peut faire un cas à Homer. Aval Nochri chez Ilvat Israël Hametzo, Achara Pessah livra Kol Over. Par contre, dans le cas où c'est le goy qui a prêté aux juifs, qui a prêté de l'argent aux juifs, et le Hametz du juif a servi de gage, donc le juif a donné son Hametz comme gage au goy. Là, après Pessah, tout le monde est d'accord que on n'a pas le droit de profiter de ce Hametz. Hatam vadaï nochrim Israël lokané, parce que là-bas, c'est sûr que le goy n'acquiert pas le gage du juif, puisque là, d'après tout le monde, dans ce sens-là, c'est sûr que le goy n'acquiert pas le gage du juif, donc il continue à appartenir au juif. Donc c'est pour ça que dans le cas de la Sefa de la Braïta, on dit que ce Hametz est assour après Pessah. La Gemara revient maintenant à notre Mishnah. Nan, on a essayé un Mishnah. Nochri, chez Ilva, et Israël, al Hametzo. Donc, un goy qui a prêté de l'argent à un juif, contre son Hametz. Achara Pessah, Moutar Be'ana. Après Pessah, on a le droit de profiter de ce Hametz. La Gemara dit, Nein, ami de Ino Etzlo. Alors, bien que on avait répondu plus haut, d'après Rava, que, on parle du cas où il lui a, donné comme gage, il l'a déposé chez lui. Donc le juif a déposé le Hametz chez le goy. À Amart Nochrim Israël au Kané. Mais on vient de dire dans la Braïta que le goy n'acquiert pas le gage du juif. Donc on ne peut plus répondre ça. Et ça contredit ce qu'on a dit dans la Braïta. La Gemara dit la Kashia. C'est pas une question. Hadé Amar le Me'arshav, Hadé lo Amar le Me'arshav. La différence entre la Mishnah et la Braïta, c'est que la Mishnah parle du cas où il lui a dit Me'arshav. C'est-à-dire que lorsque le juif a donné ce Hametz en gage au goy, il lui a dit, si je ne te rembourse pas, acquiert ce Hametz depuis maintenant. Et donc, comme effectivement il n'a pas payé finalement, donc le Hametz appartenait déjà au goy depuis le moment du prêt, et donc c'est pour ça qu'on a le droit d'en profiter après Pessah. Alors que la Braïta parle du cas où il lui a pas dit Me'arshav, il lui a donné comme gage, mais il lui a pas dit tu l'acquiers depuis maintenant. Donc c'est pour ça que là il ne l'acquérera que au moment de l'échéance. Agmara dit ou mena temra de chanele ben echad amar me'arshav ou ben echad de lo amar me'arshav. Et qu'est-ce qui nous fait dire que il y a une différence entre le cas où il lui dit depuis maintenant et le cas où il lui a pas dit depuis maintenant? D'Etania, parce qu'on a fait dans la Braïta, nochri shehirhin pat fourni tzed Israël, un goy qui a donné en gage du pain de fourni à un juif. Alors fourni, c'est un grand four, contrairement à la plupart des fours de l'époque qui étaient des petits fours et on pouvait faire que des petits pains, mais fournissent un four plus grand dans lequel on peut faire du grand pain, puisqu'on parle ici de d'un pain qui sert de gage, donc c'est certainement un pain qui a de l'importance, donc un grand pain, donc c'est pour ça qu'on parle de pâte fournie. Donc le goy a donné comme gage ce pain à un juif, et nos verres, donc on ne transgresse pas de issur de, le juif ne transgresse pas l'issur de Baléré ou Balématsé pendant Pessah. Vim Amarlo et Gartira au verre. Et s'il lui dit, si le goy lui dit c'est à toi, il transgresse. Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Quelle différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi dans le cas de la Recha on dit que il n'y a pas de issour et dans le cas de la Sefa il y a un issour? Et la lave Shwamina Shane Echad Amarle Marchav, Echad Amarle Marchav. Donc n'est-ce pas que on peut comprendre de là que quand il lui dit Gartira, ça veut dire c'est à toi depuis maintenant. Et donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre s'il lui a dit depuis maintenant ou s'il lui a pas dit depuis maintenant. Quand il lui a dit, il lui a pas dit depuis maintenant, alors il ne transgresse pas de Issour. Pourquoi? Parce que ce Tana pense que le juif n'acquiert pas le mashkon du goy, donc le gage du goy, donc comme l'avis de Tanakama de la Braïta précédente. Et mais par contre, dans le cas où il lui a dit Meharsha, il lui a dit depuis maintenant, donc puisqu'il lui a dit clairement qu'il voulait qu'il l'acquiert depuis maintenant, donc là, il transgresse le issur, puisque ça appartient déjà aux juifs depuis le moment du prêt. Shmamina, effectivement, on peut le déduire de là. Tanou Rabanan, on enseigne à la Breta, Chanout chez l'Israël, Umlaï chez l'Israël, Upoale Nochrim, Nichnasim Lesham. Donc si on a un magasin qui appartient à un juif, un magasin où on vend des aliments, donc du pain ou et d'autres choses, Umla Ishel Israël, et la marchandise appartient aux juifs, ou pour aller Nochim Nichnasim Lesham. Il y a des ouvriers goyim qui rentrent là-bas, qui rentrent et qui sortent. Chametz Shim Tsacham Achara Pesach Asubana. Si on trouve du Chametz dans ce magasin après Pesach, on n'a pas le droit d'en profiter. Ven Tsarich Tomar Be'achila, et inutile de dire qu'on n'a pas le droit de le consommer. Parce que on considère que certainement que ce chametz qu'on a trouvé après Pessah fait partie de la marchandise du magasin et non pas et qui ne provient certainement pas des ouvriers goyim. Donc c'est du chametz qui appartenait aux juifs et donc c'est pour ça que il est interdit après Pessah. Chanut shel nochri umlai shel nochri upoale Israël nichasim yotzim lesham. Maintenant si le magasin est un goy et que la marchandise appartient au goy et qu'il y a des ouvriers juifs qui rentrent et qui sortent de là-bas tout le temps pour travailler. Chametz shenimtsacham achar pesach mutar be'achila. Si on trouve du chametz là-bas après pesach, on a le droit de le manger. Vensech lomar be'ana. Inutile de dire qu'on a le droit d'en profiter. Plus fort raison qu'on a le droit d'en profiter parce que là aussi, on va dire que ça appartient certainement ça appartenait certainement au goy. Ça fait partie de la marchandise du goy. La Mishnah dit, Chametz shenafla alav mapolet, areu kemevoar. Du Chametz sur lequel il y a un éboulement qui est tombé, c'est comme si ce Chametz était éliminé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Rashi et d'autres rishonim expliquent que comme ce Chametz n'est pas visible, donc on ne transgresse pas le issur de l'Oirae. Bien qu'on avait vu plus haut qu'il y a un deuxième issur de l'Oimatsé qui nous apprend qu'on n'a pas le droit de cacher du Chametz, de le mettre à un endroit où on ne le voit pas, mais comme ici, donc c'est l'explication de Rashi des autres Rishonim, comme ici, c'est pas lui qui l'a caché, mais il y a un éboulement qui est tombé dessus et qui l'a caché, c'est comme si il n'était pas là, donc on ne transgresse pas le issur de l'Oirae. Rabban Shimon Gamliel Omer, Kol Shen Akelev Yachol Lechapes Achar. Et Rabban Shimon Gamliel explique que c'est seulement dans le cas où un chien ne peut pas le rechercher, c'est-à-dire que le chametz se trouve à une profondeur suffisante pour que le goy, pour que le chien ne puisse pas le sentir et ne puisse pas donc le sortir de là-bas. Mais sinon, pardon, il faudra le sortir de l'éboulement parce que on craint que un chien le déterre pendant Pessah et qu'il l'élimine pas immédiatement, et que donc, à ce moment-là, il va transgresser le issour de Baliré ou Balimatsé. Amar Rav Chisda dit, Vetzarich Shivatel Belibo. Mais il faut quand même s'il n'a pas besoin de l'éliminer, de le rechercher, de l'éliminer, mais il doit quand même faire le bitoul, l'annuler intérieurement. Pourquoi ? De peur que on débarrasse ce tas de pierres pendant Pessah, et qu'à ce moment-là, il ne retrouve le Hametz et qu'il ne l'élimine pas immédiatement, et donc il transgresse le issur de Balirei. Tana, on enseigne dans une braïta, Kama Chafisa Takelev, quelle est la profondeur à laquelle un chien peut rechercher, peut encore sentir le Hametz et le rechercher, Shlosha Tfachim, jusqu'à une profondeur de 3 Tfachim. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ce tas de pierres soit haut de 3 Tfachim, pour qu'on considère qu'il soit comme illuminé. Amar le Ravacha Bered Rav Yosef le Ravashi, Ravacha le fils de Rav Yosef a dit à Ravashi, Ad Amar Shmuel Ksafim Enem Shmira et Rabikaka, Mi Bainan Shlosha Tfachim, Olo. Lorsque Shmuel a dit que l'argent, le seul moyen de le garder, c'est enfoui dans la terre, ça veut dire que Rashi explique que quelqu'un qui confie de l'argent à quelqu'un d'autre pour qu'il le garde, le seul moyen qui est considéré comme une bonne garde de l'argent, c'est de l'enfouir dans la terre. Si il n'a pas enfoui cet argent dans la terre, il est considéré comme pochéa, comme négligent, et donc s'il arrive quelque chose à cet argent, il sera obligé de rembourser, même s'il est shomer chinam. Donc, Ravacha Bered Rav Yosef demande à Ravashi, il dit, mais lorsque Shmuel a dit ce dîne-là, est-ce que il faut l'enfouir à une profondeur de 3 tfachim ou pas? Amarle, hacha mishum recha bainan shlosha tfachim, ata mishum mirsuye meena ou velo bain shlosha. Il lui a répondu, Ravashi a répondu à Ravacha Bered Rav Yosef, il lui dit, là-bas, par rapport au Hametz, la raison pour laquelle il faut 3 tfachim, pourquoi la Braïta a dit qu'il faut que ce soit une profondeur de 3 tfachim, c'est à cause de l'odeur, parce que, à moins de 3 tfachim, le chien peut encore sentir le Hametz, et donc il pourrait le déterrer. Mais ici, c'est-à-dire par rapport à l'argent qu'on lui a confié à garder, ce qui est important, c'est que ça soit caché des regards, donc on n'a pas besoin de 3 tfachim de profondeur. Vekama, alors à quelle profondeur il faut enfouir cet argent? Amarafam bar papa, misichra tefach. Amarafam bar papa de Sichra a dit, il faut l'enfoncer simplement à une profondeur de 1 tefach.